Café Oriental. J'ai refusé totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Parole aux auditeurs, Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Malgré ses potentialités en ressources minières et leur exploitation, la République démocratique du Congo connaît une ampleur des phénomènes de pauvreté. Plusieurs sources indiquent que 73% des habitants de la RDC sont pauvres et que 59% de la population vit sous les seuils de la pauvreté avec moins d'un dollar par jour. La réduction de ce seuil de pauvreté passe par la réforme de plusieurs secteurs, notamment le secteur Mimi. Et justement, dans ce secteur, le ministre des tutelles a pris en date du 17 avril dernier l'arrêté numéro 0144-01-2013 portant sous-traitance des activités minières directes, connexes ou annexes des entreprises minières. Quel pourrait être, selon vous, l'impact de cet arrêté et de ces mesures dans la lutte contre la pauvreté en RDC? Nous en parlons avec le professeur Dona Kampata, qui est coordinateur de la cellule technique des coordinations minières au ministère des Mines. 081-890-4339, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission coordonnée par J.R. Lungembo, Titim Poutou et Guy Mazangwa sur la réalisation. Pierrot et la Meiji vous la présentent sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Spécial Fête de la Musique. Ce vendredi 21 juin sur Radio Okapi, retrouvez le concert live acoustique de Ferrego La Chair de Poule. Sur nos antennes à partir de 22h heure de Kinshasa, dans la seconde partie de l'émission Roundup. La fête de la musique, c'est sur Radio Okapi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Professeur Dona Kampata, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre.
Et merci d'avoir accepté pour une fois de plus l'invitation de Radio Capi.
Nous avons déjà l'habitude.
Merci beaucoup. Alors, je sais que le mois d'avril, il y a eu deux arrêtés très importants au ministère des Mines, par rapport à la réforme de ces secteurs. Mais partant d'abord du problème qui touche la majeure partie de la population en ce qui concerne la pauvreté, il y a cet arrêté portant sous-traitance des sociétés minières. Avant d'aller plus loin, pourquoi le ministère des Mines a pensé à prendre cet arrêté?
Mais il faut dire que c'est suite à la grande conférence qui est tenue à Lubumbashi au mois de janvier de cette année, présidée par le président de la République lui-même. À la suite de cette grande conférence, il y a eu plusieurs recommandations. Et parmi ces recommandations, c'est la sous-traitance des sociétés congolaises, c'est-à-dire laisser au moins des sociétés ou bien de personnes physiques ou morales congolaises dans l'assistance. Parce que la sous-traitance, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'une activité minière, il y a l'activité principale qui est l'exploitation de la mine, mais il y a d'autres activités qui accompagnent cette activité minière, par exemple les gardiennages, les cantines, la découverte d'une mine, les transports même des produits miniers, les nettoyages des bâtiments. Tu vois, certaines sociétés donnaient ces travaux à des sous-traitants étrangers. Mm-hmm. C'est pourquoi le ministre a accepté d'appliquer la recommandation de cette conférence pour que ce n'est pas toutes les matières, certaines sous-traitances puissent laisser à la disposition donc des sociétés ou des personnes congolaises. Voilà en gros ce qui s'est passé.
Mais on sait que les personnes congolaises ont des problèmes d'accès aux capitaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'un côté aussi l'octroi des crédits, par exemple, qui puisse permettre à ces personnes d'avoir accès aux ressources? Parce que sinon, ça risque d'être la même chose, octroyer aux nationaux. Mais dès lors que les nationaux n'ont pas de moyens de pouvoir faire cette toute sous-traitance, quelles sont les mesures d'accompagnement pour leur permettre effectivement d'accéder à cette sous-traitance?
Bon, mais vous savez, le problème c'est que dans les cas de la sous-traitance, il y a des activités que certaines sociétés congolaises qui sont sur place peuvent les faire. Lorsqu'on parle de nettoyage dans un chantier minier, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent sur un compte? Mais non, la construction, c'est vrai, mais nous avons quand même certains Congolais qui ont des capacités techniques et financières, mais qui n'ont pas accès à ce genre de travaux. C'est ainsi qu'on s'est dit, mais si ces Congolais font la sous-traitance, derrière eux, ils vont donner de l'emploi à certains Congolais. Et l'implication, c'est quoi? C'est la diminution de cette pauvreté criante. Même autour de villages qui sont entourés par des activités minières. C'est pourquoi on s'est dit, même avec les moyens, tu vois, actuellement il y a quand même beaucoup de banques ici à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout, mais quelqu'un qui a des capacités techniques peut créer une société, c'est sous-traitance, dans la matière où elles veulent faire. C'est-à-dire que moi, on ne demande pas aux Congolais d'aller faire l'aéroporter. C'est-à-dire la prospection aéroportée pour une société minière. Non. Mais quelqu'un qui a une entreprise de construction, mais celui-là, il peut construire les bâtiments au lieu que la société nous amène les maisons préfabriquées ou bien les conteneurs et loger les agents dans les conteneurs. C'est ça ce que le ministre a visé et c'est ça les recommandations même. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, au niveau de la province, il y aura une structure qui devra contrôler cette sous-traitance. Si c'est une matière qui peut être effectuée ou bien réalisée par des Congolais, là, la société doit le faire. Mais au cas contraire, il y aura quand même des problèmes.
Mais est-ce qu'au niveau de la loi, vous avez dit qu'il y a des certaines, bien sûr, certains domaines pour lesquels on peut accorder la sous-traitance, est-ce qu'elle se fait d'une manière concurrente? Ou soit avec les capitaux étrangers, disons, les sociétés étrangères, ou c'est seulement le marché ouvert uniquement aux Congolais?
Non, mais tout dépend. Je vais vous donner un exemple. Regarde, la plupart des sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont des sous-traitants, par exemple, pour la vente des minerais. Lui, il exploite, mais il donne à un sous-traitant qui vend ses minerais. Mais vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Les sous-traitants bénéficient les mêmes avantages fiscaux que lui-même.
L'exploitant.
Oui, que l'exploitant. Parce que le code minier est clair. Le code minier donne les mêmes avantages aux titulaires et aux sociétés affiliées et même aux sous-traitants. Alors maintenant, si c'est un sous-traitant congolais, mais que sous-traitant étranger, il n'aura pas à payer même certains impôts spécifiques. Mais si nous mettons un Congolais, mais c'est sûr, les Congolais sera exonéré aussi, mais il aura à employer quand même le certain Congolais, ne fût-ce que pour donner une certaine rémunération. C'est ça. Maintenant, considérez, parce que la plupart des cas, ce sont des sociétés en exploitation. Parce que dans notre métier, il y a les sociétés en recherche. Là, les Congolais ne sont pas nombreux. Même la sous-traitance peut être il n'y a pas beaucoup. Mais dans l'exploitation.
Dans l'exploitation,
l'exploitation, c'est à ce moment-là où nous avons une sous-traitance dans tout, presque tout. Et c'est pourquoi il faut ouvrir donc certaines matières aux Congolais.
Mais on sait qu'il y a, on se retrouve avec vous, je crois bien, dans un autre débat. Il y a ces problèmes de la révisitation du code minier. Est-ce qu'il y a une compatibilité, il y a une jonction au niveau de ces deux textes, cet arrêté, est-ce qu'elle pousse l'idée, l'esprit du code minier qui lui-même, beaucoup de gens souhaitent qu'il soit révisité?
Non, mais parce que le code minier actuellement, nous sommes en révision du code minier. Je crois que le mois prochain, on aura cette réunion où nous aurons le gouvernement, la société civile et les opérateurs miniers pour la mise en commun donc de toutes les idées. Et c'est sûr que ça, la matière de l'arrêté va être intégrée dans les codes miniers. Là, ils ne peuvent pas s'échapper.
Voilà, on va revenir à vous, parce qu'il faudrait aussi que nous puissions voir pratiquement comment le fait d'avoir accès à cette sous-traitance peut influer sur la réduction de la pauvreté. On pourra voir beaucoup plus de détails dans cette émission, et puis revenir aussi sur un deuxième arrêté, parce qu'il y en a eu deux. On va voler aussi l'autre, mais en attendant, il y a les auditeurs comme Omar qui est ici à Kinshasa, Chico est à Kasumbalesa et Olivier est à Kinshasa aussi. On va leur accorder la parole. 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs.
Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à l'invité.
Et on vous écoute, nous parlons de la réduction de la pauvreté, mais comment hein, le fait de voir les nationaux qui accèdent à la sous-traitance dans le secteur minier, comme on l'a dit au niveau de la loi, c'est les opérations minières directes, connexes et annexes, pensez-vous que cela peut avoir de l'impact sur la réduction de la pauvreté? Parce que le paradoxe que nous avons, c'est ça, le fait qu'on ait ces mines, qu'on les exploite, mais même les populations qui vivent tout autour vivent dans des conditions déplorables, Omar.
Merci beaucoup, Pierrot et la Meji. Je remercie la Radio Capi pour cette émission qui traite de l'économie. Au fait, Boigny disait, lorsque l'économie tousse, la politique est enrhumée. Alors, nul ne peut ignorer que la mauvaise gestion du secteur minier a fait que la RDC soit aujourd'hui classée parmi les pays les plus pauvres. On a notamment comme cause la mauvaise gestion de nos ressources et deuxièmement, le manque des moyens qui est sérieux. Le secteur minier exige beaucoup de moyens, et sans moyens, on ne peut pas réduire la pauvreté. Par rapport à la question principale de cette émission d'aujourd'hui, moi je pense que l'arrêté est bon, la sous-traitance. Mais nous avons un problème sérieux, M. Pierrot, c'est qu'il n'y a pas une loi appropriée qui traite de la sous-traitance. Le Code du travail parle de la sous-entreprise, et il y a des problèmes sérieux d'application sur le terrain. Beaucoup de sous-traités ont des difficultés. Lorsqu'il y a des litiges, comme il n'y a pas un cadre légal fixe, il y a des problèmes qui naissent. Voilà pourquoi moi je proposerai au Parlement de mettre en place une loi qui traite de la sous-traitance. Parce qu'au Congo, il n'y a que la sous-entreprise qui est prévue aux articles 82 et 85 du Code du travail. Des deux, moi je pense qu'il faudra aussi réformer les codes miniers. C'est un code qui est très complexe. La loi, par essence, doit refléter les réalités sociales. Si vous lisez les codes miniers, ils ne reflètent pas les réalités minières congolaises. Je pense que la réduction de la pauvreté passerait aussi par la réforme du code minier. Aussi, Monsieur Pierrot, il ne faut pas oublier que notre pays a eu beaucoup de contrats miniers, tant sur le plan interne qu'international. Et ces contrats se sont révélés léonins, c'est-à-dire la plupart des étrangers ont eu des parts léonines, c'est-à-dire des grandes parts au profit de et au désavantage de la population congolaise. Je demanderai au gouvernement de réviser ces contrats parce que ce n'est pas seulement l'arrêté qui réduirait ou la sous-traitance qui réduirait la pauvreté, mais aussi la révisitation des contrats qui seront, n'est-ce pas, qui ont été pris dans ces secteurs-là. Et pour finir, je demanderai à ceux qui ont la charge de gérer ces secteurs miniers de le faire à bon escient, car dans la vie, la volonté politique et la capacité d'organiser les choses suffisent pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réduire la pauvreté. Et ne pas oublier, n'est-ce pas, les principes de la bonne gouvernance pour que ces secteurs puissent, n'est-ce pas, finir la pauvreté ou finir la pauvreté en RDC. Voilà une préoccupation que j'avais, M. Pierrot, je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar, avec beaucoup de précisions. Vous avez souhaité d'ailleurs qu'on ait une loi spécifique hein, qui parle de la sous-traitance, parce que selon l'article 82 du Code du travail, on parle plus de la sous-entreprise. Vous pensez qu'on risque d'avoir des difficultés, n'est-ce pas, dans la gestion de cette sous-traitance, comme il n'y a pas une loi spécifique. Et vous souhaitez, et d'ailleurs, qu'on puisse réformer le code minier, mais aussi passer aussi par la révisitation des contrats qui ont été dits, contrats léonais. L'ensemble de tout cela peut faire à ce qu'on puisse obtenir les résultats de la réduction de la pauvreté. Merci beaucoup de ce point de vue. Vous êtes ici à Kinshasa. Chico, vous êtes à Kasumbalesa, dans la province du Katanga. Bonjour, Chico.
Bonjour, Pierre Lamézou. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à partir de 5 MHz.
5 MHz, c'est la fréquence de quelle radio, Chico?
C'est la radio Capi à partir de Talonise, au bord du lac Tanganyika.
Ok, merci beaucoup Chico. On est ensemble alors. Pour vous, pensez-vous que la sous-traitance peut influer sur la lutte contre la réduction de la pauvreté hein?
Ok, pour cette conférence, moi je ne trouve absolument rien. Là, c'est une façon de diffuser la population, puisque tous ces arrêtés qui sont en train d'être signés par le ministère, c'est une façon en tout cas d'imposer pour la énième fois la population congolaise. Et je m'en souviens encore pour une lettre arrêtée du ministre des Affaires extérieures et du commerce extérieur plutôt, qui a signé que les étrangers ne doivent pas vendre leurs marchandises en détail. À Kinshasa, il y a des Chinois, et les Libanais, les Indiens, même les gens en Malaisie, à Casablanca, partout, ils vendent leurs marchandises même de l'eau en pratique en détail.
Oui, Chico, on vous a suivi, vous êtes très pessimiste. Vous pensez que l'arrêté ne peut pas résoudre les problèmes parce qu'on a beaucoup d'arrêtés au niveau du pays, beaucoup d'arrêtés qui sont pris ainsi, qu'on n'applique pas. Vous avez fait allusion à la loi, à l'arrêté, bien sûr, interdisant aux expatriés d'exercer le petit commerce. Mais malheureusement, personne ne semble écoutez, tout le monde, voilà, il n'y a pas de suivi. Vous avez peur que cet arrêté autour de la sous-traitance ne puisse pas avoir aussi de résultats sur terrain. C'est votre inquiétude, hein. Vous êtes à Kasumbalesa. Olivier, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Olivier.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Olivier. Vous avez suivi, Omar pense qu'il faut des mesures d'accompagnement pour que la sous-traitance puisse vraiment avoir des résultats dans la lutte contre la pauvreté. Mais Chico, lui, il est catégorique. Quand il n'y a pas de suivi, cet énième arrêté ne peut pas résoudre le problème. Quel est votre point de vue?
Oui, je partage parfaitement le point de vue de deux, surtout du premier.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, je suis d'avis qu'il faut bien évidemment créer la sous-traitance dans le secteur de mines. Seulement, je pense qu'on peut faire plus que ça. Mmh. Imposer, par exemple, pourquoi pas aux entreprises de transformer les matières premières ici dans le pays, localement, au lieu de les exporter en état brut et pour une éventuelle transformation à l'étranger. Je crois que de cette façon-là, on créerait davantage d'emplois pour le nationaux. Comme ça, on réduirait davantage le taux de la pauvreté au sein de la population.
Mm-hmm.
Pour cela, je crois que le problème, il est beaucoup plus complexe que là. Parce qu'il y a même déficit, n'est-ce pas, dans la main-d'œuvre même de la population congolaise. Il faudrait pour cela former une masse ouvrière, si vous voulez, ou une main-d'œuvre capable d'apporter le service que ces exploitants, que ces entreprises-là vont trouver ailleurs. C'est-à-dire former une main-d'œuvre capable de travailler le fer, capable d'accéder, n'est-ce pas, à la technologie pour pouvoir transformer ces matières premières ici chez nous. Maintenant, comment ça concerne l'intervention de Chico, je crois, le deuxième intervenant,
mm-hmm.
Son pessimisme, je pourrais le partager dans le sens où on a pris tellement de mesures dans ce pays pour le parachever, par exemple, pour le commerce en détail de biens et services. On constate malheureusement, malgré toutes les décisions que le gouvernement a pu prendre, que la mesure n'a eu pas d'effet et que les expatriés continuent malheureusement à vendre de produits en détail dans le pays, alors que c'est un commerce qui est réservé spécialement aux nationaux. Et là, nous laisse un peu penser qu'il y a une complicité ou une incapacité ou même une complicité du gouvernement. Parce que on nous laisse entendre des fois que à chaque fois qu'une entreprise signe un contrat, il y a parfois, bon, je n'ai pas de preuves, le ministre retire une commission dans chaque contrat. Et je ne crois pas qu'un tel ministre pourra suivre de telles entreprises pour leur demander une suivi, une transparence dans la gestion des sous-traitances.
Mmh. Merci Olivier. On a suivi, hein, vous avez d'ailleurs évoqué quelque chose de très important, c'est la main d'œuvre qualifiée. Vous avez dit, s'il y a par exemple des sociétés étrangères qui recourent à l'extérieur pour la sous-traitance, ça peut être aussi dû au fait qu'on n'a pas les capacités dans le milieu. Alors pour vous pensez qu'il faudrait d'abord fournir la main d'œuvre qualifiée locale, bien sûr, qui puisse accéder effectivement aux services qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur. Et vous avez aussi souhaité qu'on puisse imposer aux différentes sociétés d'exploitation la transformation sur place. Mais qui dit transformation dit aussi les compétences nécessaires pour faire ce travail. Merci beaucoup Olivier de cette proposition. Floribert, vous êtes à Kalemi dans la province du Katanga. Bonjour Floribert.
Bonjour.
Floribert, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir arrêter votre poste récepteur? Comme ça, vous allez écouter l'émission directement à travers les téléphones portables et ça va éviter que vous puissiez nous suivre avec beaucoup de retard. Et là, on va collaborer, communiquer directement. Floribert, c'est bon? Comme ça, vous pouvez parler et intervenir. le temps qu'on puisse voir. Oui, Flaubert, si vous pouvez arrêter votre radio, s'il vous plaît. Comme ça, on va communiquer directement à travers les téléphones portables. Est-ce que vous me suivez?
Ok, ok, je vous suis très bien. Ben, je voulais dire que le caractère de ce traité, il est très bon. Parce qu'au Congo, le Congo reste ce qu'il est. On a déjà fait des bonnes théories. Si on regarde les manifestes de l'Anstelé, beaucoup de théories que je ne sais pas, que je ne sais pas dire ici. Mais le problème, c'est derrière cet arrêté-là, il y a toujours l'intérêt des politiciens. Puisque au Congo, il y a les compétences, les gens sont formés dans tous les cadres possibles, mais notre politique n'est pas bonne. C'est pourquoi le pays n'avance pas. Tant que la politique ne sait pas se démarquer de ce qu'elle est, le Congo va rester le même, et même cet arrêté ne va servir à rien. Voilà mon intervention.
Merci, Floribert. Pour vous, vous pensez que le problème, ce n'est pas le fait qu'on ait l'arrêté, mais c'est plutôt la compréhension politique hein, dans le système. Vous pensez que si ça ne se démarque pas, on peut avoir l'arrêté, mais ça ne peut pas résoudre le problème. Nous allons écouter le dernier auditeur de cette première série avant d'accorder la parole à notre invité. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, Monsieur Ferro.
Vous avez suivi Olivier de Kinshasa qui a dit quelque chose qui a retenu mon attention. C'est par rapport aux compétences nécessaires. On peut avoir, bien sûr, un arrêté sur la sous-traitance. Lui pense que cela ne peut pas résoudre le problème quand il n'y a pas de compétences nécessaires qui doivent s'investir dans cette sous-traitance. Et vous, d'ailleurs, qui défendez plusieurs fois les compétences locales, qu'est-ce qui peut être fait pour réussir effectivement ces projets et voir ainsi la pauvreté être réduite, Arsène?
Oui, merci beaucoup en tout cas. Je veux aussi parachever ce que notre président a parlé. Bon, dans cette histoire, vous savez, notre malheur ici au Congo, c'est d'abord nos mines. C'est ce qui nous crée trop de malheur ici. Mais à la longue, quand nous voyons vers l'avenir, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour que demain, le problème qui se pose aujourd'hui ne puisse plus se poser? C'est là où je reviens à ce qu'a dit mon prédécesseur. La formation des cadres compétents en toute matière. Ça, si on ne le fait pas, en tout cas, ça ne sert à rien de prendre des arrêtés qui vont nous servir à rien. Regardez à l'époque de la Gécamines. À l'époque de la Gécamines était le numéro un. Mais à part ça, il y avait les compétences étrangères qui venaient nous assister. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Tous ces gens qu'on appelle aujourd'hui là-bas au Katanga ou au Nord Kivu, je ne sais où, qui sont en train d'exploiter les mines. Mais ce sont aussi des sous-traitants. Nous allons aller de sous-traitants en sous-traitants, de sous-traitants. Il n'y a pas une entreprise de taille qui peut concurrencer, par exemple, l'union minière de l'époque. Aujourd'hui, nous devons avoir une stratégie qui doit aller vers le développement, vers la modernisation. Mais nous devons voir le devant, le 15 ans après, le 20 ans après. Parce qu'aujourd'hui, former les compétences, nous allons commencer d'abord par l'école primaire. Avoir d'abord des compétences à l'école primaire, ensuite à l'école secondaire, et puis à l'université. Ceux qui vont travailler sur le terrain, ce ne sont pas nécessairement les universitaires, comme le professeur qui est là avec nous. Ce sont des professionnels en telle ou telle spécialité. Et ces professionnels-là, est-ce que nous les formons? Regardez nos écoles techniques. Je suis passé une fois à Kinshasa, à l'école technique de la Gombe. Mais c'est de la merde, si, excusez-moi le terme, parce que ce sont des histoires qui dataient des années 60. Je suis passé dans notre école, là où j'étais formé, ici à Kikwit. Mais les machines que nous avons, les outils que nous avons, ce sont des histoires des années 60. Aujourd'hui, nous devons voir un peu vers l'avant, regarder un peu comment nous pouvons former nos techniciens et comment nous pouvons préparer nos hommes d'affaires. Ça, c'est important. Ceux qui vont aller faire la sous-traitance, ils doivent avoir le moyen intellectuel et le moyen financier. Mais comment nous les préparons? Je crois qu'à l'époque, si je me souviens bien, il y a eu une fois la Gécamine avait le problème où c'était l'union minière. L'argent qui est venu pour soulager la Gécamine est venu vers l'ouest, dans l'agriculture. Nous devons plus préparer notre pays dans l'agriculture, comme le disait le professeur Malo à la conférence nationale. Nous sommes à l'époque de l'ajustement des matériaux. C'est cette époque que nous sommes aujourd'hui. Nous avons des grandes entreprises, mais cette époque d'ajustement des matériaux, est-ce que nous sommes capables d'affronter cette concurrence au niveau international? Je ne crois pas, parce que nous avons négligé l'enseignement. Aujourd'hui, nous sortons des ingénieurs. Allez à l'ISTA. Permettez, Pierrot, je vais conclure.
Oui.
Allez à l'ISTA. L'ISTAF est une grande école qui est connue au niveau de l'Afrique centrale. Mais allez-y là-bas, à part les théories qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont comme matériel? On va sortir des mécaniciens aéronautiques. Allez voir qu'est-ce qu'ils ont comme matériel. Je crois qu'ils sont en retard de siècles par rapport aux élèves ou aux étudiants qui sont en France. Donc, essayons un peu de voir les choses objectivement. Commençons d'abord par former nos cadres, former nos hommes d'affaires, et en plus de ça, commencer à préparer la relève. Comment est-ce qu'on peut faire pour que d'ici les 10-15 ans, on essaie un peu de remplacer ça et couvrir la pauvreté?
Merci beaucoup, Arsène. On comprend qu'il y a tous les points de vue de ce premier groupe d'auditeurs vont se croiser quelque part. Notre invité pourra réagir pour réajuster certaines questions. Nous vous disons tous merci de nous appeler ainsi. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. 081-890-4339, c'est le numéro d'appel. Premier tour cycliste de la République démocratique du Congo du 19 au 29 juin 2013. Radio Kapi au cœur de l'événement sportif de l'année. Tous les jours, entre 9h et 12h, vivez en direct les grands moments de l'épreuve et la lutte sans merci des coureurs du peloton. Deux émissions spéciales, mercredi 19 juin, le départ de la course à Matadi et l'arrivée à Kinshasa. Et tous les jours, dans le journal des sports, retour sur les étapes, le classement et les réactions. Le premier tour cycliste du Congo, c'est sur Radio Kapi.
Professeur Doma Kampata, vous avez suivi nos auditeurs. Si je viens regrouper leurs préoccupations, ça part d'abord d'une loi spécifique sur la sous-traitance, en passant par les compétences nécessaires dans la sous-traitance, mais aussi les inquiétudes par rapport au nombre d'arrêts et des mesures que nous avons qu'on n'arrive pas à appliquer. Voilà un peu tout ce que vous avez aussi noté. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs?
Non, mais surtout pour les premiers, quand ils parlent de la mauvaise gestion des ressources minérales, ça c'est un point de vue que je ne partage pas beaucoup. Mais parler d'une loi spécifique, c'est qu'il a oublié que le code minier c'est une loi spéciale. Parce que le code minier ne traite pas seulement les secteurs miniers, il traite tout ce qui est fiscal, douanier, l'environnement. Le code minier touche un peu à tout. Donc, ce qui fait que la sous-traitance est définie dans le code d'un règlement minier. On définit déjà les sous-traitants. Mmh. Donc, là, il n'y a aucun problème. Mais il a parlé évidemment de la révisitation. Bon, ça, c'est déjà dépassé parce que
oui, nous ne devons pas faire
la révisitation pour troisième fois. Nous faisons fuir les investisseurs. La formation, ça, je comprendrais bien. Vous savez que la GECAMINE à l'époque, comme la SNCC, ils ont toujours des écoles. Mmh. Mais ces écoles ne sont pas aussi viables que maintenant. La GECAMINE, depuis l'Union minière, avait l'école de Moussouchi où on formait les techniciens dans le cadre de la prospection, les techniciens dans le cadre des sondages et dans les mines. Mais actuellement, bon, avec la situation de la GECAMINE actuellement, cette formation est un peu négligée. C'est pourquoi, lorsque vous allez remarquer, la plupart de nos sociétés, ils ont engagé tous les partenaires de la GECAMINE, ils ont pris les bons travailleurs de la GECAMINE de l'époque qui ont été mieux formés. Actuellement, c'est tout un problème qui se pose. Hein? Il faut quand même que l'État, ça c'est une réalité, qu'on puisse regarder, tourner vers les écoles professionnelles. Hein? Vous comprendrez que dans pas mal de matières, les maçons, ce sont des gens qui se forment eux-mêmes. Hein? Ça c'est courant. Ça je ne peux pas refuser, c'est un problème qui est tout à fait réel. Mais quelqu'un a parlé aussi des suivis des arrêtés. Ça, c'est vrai. Hein? Mais dans le secteur minier, il y a des arrêtés réglementaires qui ont été signés, mais qui sont tout le temps suivis. Mais c'est vrai, c'est comme le code minier. Vous savez, quand il est sorti, il y avait toujours un problème quand quelqu'un il constate qu'on lui arrache quelque chose qu'il pouvait recevoir indûment, il va faire tout pour bloquer cette histoire-là. Et ça s'est fait. Il y a eu même les guichets uniques à Matadi et tout ça. C'est tout simplement, c'est l'éducation des Congolais. Et ça, on ne peut pas s'arrêter pour ne pas prendre
d'autres mesures
pour se protéger pour nos Congolais, parce que les mesures sont réappliquées. Pour la mesure que le ministre vient de prendre, elle va être appliquée. Pourquoi? Parce qu'elle va être accompagnée avec les pouvoirs, les ministres provinciaux et même avec les gouverneurs de la place. Mmh. Ce n'est pas les ministres qui vont surveiller ces sociétés, parce que ces sociétés se trouvent en province. Nous avons des différents ministères en province qui vont faire les suivis de cet arrêt. Donc c'est un texte important, nous ne devons pas le négliger parce que beaucoup de capitaux sortent dans la sous-traitance. Mmh. C'est comme des sociétés qui se payent elles-mêmes. Alors maintenant, si nous ouvrons ces marchés-là à des Congolais, ça c'est sûr qu'il y aura quand même un impact positif. Ça ne se faisait pas avant, mais il faudra que ça se fasse.
Et comment lier alors l'octroi de ces marchés de sous-traitance avec la lutte contre la pauvreté? Parce que c'est un peu ça aussi notre question. Concrètement, je sais que la loi a défini comment cela va se faire, mais alors pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup d'espoir quand on apprend des choses comme ça. Comment cela peut-il être faisable pratiquement parlant?
Non, moi je vais vous donner une grande société comme Tenkefunguru, mais dans le cas de la sous-traitance, vous pouvez vous imaginer combien de milliards sortent, parce que parfois, il y a des sociétés qui ont des gardiennages étrangères, c'est-à-dire que ce sont des étrangers qui sont tout autour. Mais si on donne ces marchés-là aux Congolais, construction des bâtiments et tout ça, mais prenez l'ensemble de ces sous-traitances, ne regardez pas l'activité elle-même minière. Même dans la sous-traitance, là, une société, comme les grandes sociétés minières, elle peut seulement, même pour excaver les minerais dans les sous-sols, c'est un sous-traitant qui le fait. Pour transporter les minéraux, les produits miniers, c'est un sous-traitant qui le fait. Et les sous-traitants, vendre les minéraux à l'étranger, c'est un sous-traitant qui le fait. Une société peut avoir au moins 10 sous-traitances. Mais imaginez, dans les sous-traitances, là, il n'y a pas de Congolais, c'est lui-même. Donc c'est comme quelqu'un qui exerce une activité. Nous regardons l'activité principale, mais les activités annexes et connexes, c'est lui-même qui s'est fait, il s'est fait lui-même. Mais lorsque nous mettons les Congolais autour de cette sous-traitance, parce que les gens peut-être n'ont pas bien compris la sous-traitance. Alors, mais les Congolais, toi tu es un Congolais, tu as une société, tu ne vas pas faire la sous-traitance toi-même. Tu vas engager les gens. Quand il s'agit d'un complexe minier comme Tenkefunguru, mais combien de personnes que tu devrais engager pour faire le nettoyage du site, même la cantine pour faire la cuisine à tous ces gens-là. Donc, c'est une ouverture que le ministre a pu faire. C'est courageux, mais vous savez, ça ne fait pas plaisir à toutes ces sociétés minières parce qu'ils savent bien qu'on leur a enlevé un morceau de viande dans leur bouche. Ça, c'est vrai.
Mais est-ce que le même ne peut pas se retrouver, bien sûr? C'est-à-dire que faire le marché retour, cela veut dire que ce sont les nationaux, mais curieusement, parce que des fois les nationaux n'ont pas de moyens, la même société va créer encore une sous-traitance nationale et puis elle s'investit dedans. Comment on peut aussi contourner un peu toutes ces manipulations, professeur?
Mais c'est pourquoi il y aura chaque fois un comité de suivi local, parce que au niveau de Kinshasa, on ne peut pas contrôler cette sous-traitance. Mais nous avons des ministres provinciaux et nous avons aussi des chefs de division des mines qui est sur place. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un suivi. Lorsque vous sous-traitez, vous devez nous montrer les contrats des sous-traitances. Il y a un service qui doit contrôler la sous-traitance. Nous regardons une société créée, on va voir si c'est réellement une société congolaise ou une autre société. Mais en cas de fraude, vous connaissez, la loi prévoit toujours des pénalités par rapport à des sanctions. Vous connaissez vous-même. Voilà. Mais nous devons nous mettre, il faut quand même qu'on accepte, pas être très très pessimiste comme notre ami Chico, bon, qui dit pour lui, il faut tout arrêter. Bon,
voilà, on va revenir à vous. Il y a Henri Grégoire qui est en Boujimaï, Alphonse aussi en Boujimaï, Augustin à Durba, c'est en province orientale. L'arrêté est portant en sous-traitance l'arrêt portant sous-traitance des opérations minières directes, connexes et annexes. Et quel impact de cette loi sur la lutte pour la réduction de la pauvreté? Vous avez suivi des explications avec notre invité. 081-890-43-39, c'est notre numéro d'appel pour intervenir directement. Nous accordons la parole à Henri Grégoire qui est en Boujimaï, au Kassai-Oriental. Bonjour Henri.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute. Vous avez suivi plusieurs propositions de vos prédécesseurs, mais aussi les précisions de notre invité. Quel est votre point de vue?
Bon, moi, j'aimerais un peu juste poser une petite question toujours en matière minière. Je ne sais pas si l'invité expert du CNP nous apporter un peu de la lumière là-dessus.
Oui, allez-y, posez la question, Henri.
Oui, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qui fait que la population de Mboujimaï soit toujours pauvre. Est-ce que jusqu'à présent, le cours de diamant est toujours en baisse sur la cotation mondiale ou comment?
Voilà, merci Henri, c'est une préoccupation. Vous êtes en Bujumbura qui est, comme on l'appelait bien, la capitale mondiale du diamant. Et depuis un moment, vous voyez que les gens sont trop pauvres, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous voulez savoir auprès de notre invité si le cours du diamant est toujours en baisse sur le plan international? Il pourra nous répondre quand bien sûr ça n'a pas cadré directement avec notre préoccupation, mais ça touche au secteur minier et puis on peut bien sûr profiter pour en parler. Voilà, Alphonse, vous êtes en Bujumbura, toujours au Kassai Oriental, bonjour.
Bonjour, c'est Alphonse de Kimbushumai.
Oui, voilà, vous avez suivi les uns et les autres par rapport à la sous-traitance. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue est le suivant. Ancien étudiant en histoire économique, nous avons étudié, une étude sur la situation du professeur Tubang ou Moustaf, et nous avons sur la sous-traitance au niveau de la Chétanie. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle loi, ce n'est pas une nouvelle arrêté, c'est peut-être une nouvelle formulation. Pour moi, il s'agit d'un nouveau texte bien formé, magnifique, mais au fond, qui va aggraver la misère de la population.
Comment?
Notre population n'est pas pauvre, elle est misérable. Vous verrez que les sous-traitants seront les politiciens. Ce sont les mêmes personnes qui vont former les autres et ceux qui seront chargés de diriger, de contrôler au niveau des provinces. Il s'agira des gouverneurs des provinces, des chefs de division, que leurs beaux-frères, que leurs belles-sœurs, etc., seront là. C'est pas la vérité. Que le ministre ne vienne pas nous dire qu'il a conçu un bon arrêté. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas la vérité. Nous, historiens, posez la question au professeur Tubang avec Moustaphe, parce que c'est lui qui avait dirigé ses travaux. Ils peuvent vous le dire. Posez la question au professeur Boussalim et Mararo. Ils peuvent vous le dire. Encore une fois, les politiciens viennent démonter un coup contre le peuple.
Alphonse, s'il vous plaît, allons-y doucement. Alphonse, oui.
Formellement, c'est bien,
s'il vous plaît.
C'est bien, on va engager. Quel Congolais va s'engager?
Oui.
C'est le professeur, non?
Oui, Alphonse.
Nous le voyons ici.
Oui, Alphonse, on peut aller doucement.
Je sais.
Oui, Alphonse, nous sommes dans une émission interactive. Je voudrais bien vous relancer parce que je sens que vous êtes très remonté. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'on voit des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans la société qui se posent aujourd'hui. Ah, malheureusement qu'on a perdu Alphonse, on allait le relancer par rapport aux raisons pratiques sur terrain de son pessimisme. Mais il a évoqué, il a dit que ce n'est pas un nouveau texte. Pour lui, il pose le problème des interférences des politiques, même qui pourront contrôler ces marchés de sous-traitance. On pourra aussi demander à notre invité sa réaction par rapport à ça, mais malheureusement qu'on l'a perdu. Nous allons à Durban, province orientale. Augustin, vous êtes avec nous, bonjour. Augustin, bonjour. Et voilà, la ligne avec Durban, province orientale a posé des problèmes. On retourne au Kassai, cette fois-ci dans la ville de Kananga. Mathieu, vous êtes avec nous, bonjour Mathieu.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, monsieur.
En ce qui me concerne, j'ai remarqué depuis qu'il est là, monsieur le ministre des Mines a pris plusieurs arrêtés ministériels et je considère des meilleurs pour l'intérêt de notre population. Et nous ne pouvons pas citer, je me rappelle néanmoins pour celui du 5 avril 2013, arrêté interministériel qui porte sur les réglementations des produits miniers marchands.
On va évoquer cela d'ailleurs tout à l'heure avant la fin de cette émission, oui Mathieu, oui.
Oui, et c'est du 17 avril 2013, mais qui est le sujet que nous débattons ce jour.
Pourtant,
disposition relative à la sous-traitance des activités minières en République démocratique du Congo. Tout ça, c'est très bon et encourageant. Mais j'ai des petites préoccupations que je demande des réponses à votre invité.
Notre invité.
Premier, les points noirs. Dans notre pays, reste le secteur minier. Pour échapper à l'impôt, les compagnies sont sous-évoluées leurs concessions et les revendent à des sociétés de complaisance basées dans des paradis fiscaux. En 5 transactions de ce type, l'État congolais avait perdu 1,4 milliard de dollars. Nous avons les références de l'Africa Progress Panel de Kofi Annan. Je sais qu'il y a une parade, je ne sais pas s'il y a une parade contre ce fléau. Ça, c'est une première FBA de mes préoccupations. Puisque c'est connu de tous, le secteur minier se trouve dans notre pays aux mains des Libanais, des Indiens et des Chinois avec le concours des autres intouchables du pays. Et puis, suite à une requête de chef d'État des Grands Lacs, ces derniers avaient sollicité d'instituer un certificat régional garantissant la traçabilité des minéraux dans cette sous-région pour se conformer aux valeurs du commerce international où tous les minéraux exportés à partir de l'est du pays qui ne seront pas accompagnés de ces certificats seront saisis et l'exportateur sera considéré comme un trafiquant illicite. La question que je pose est de savoir où en est-on avec ces mesures, monsieur le journaliste. Je pose cette question à votre invité, s'il y a déjà des arrêtés, les arrêtés parmi les trafiquants illégaux et saisir des minéraux.
Merci beaucoup, Mathieu. On sent que vous maîtrisez vraiment. D'ailleurs, vous avez, avec beaucoup de précision, parlé du deuxième arrêté, qui va être aussi évoqué plus rapidement par notre invité. Mais vous posez la question, il y a le problème de la sous-évaluation des concessions par les exploitants, mais aussi les questions directes comme les certificats s'assurer de la traçabilité de minéraux au niveau de la sous-région. On pourra avoir des réponses plus rapidement avec notre invité. Le temps d'écouter aussi Kalonji, qui est ici à Kinshasa. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Merci pour la parole. Je intervenais par rapport à l'arrêté ministériel de société de sous-traitance.
Mm-hmm.
Bon, pour moi, je trouve que cette société-là vient pour appauvrir davantage la population congolaise.
Comment?
Parce que nous avons les cas avec les sociétés de télécommunications. Si vous allez dans des sociétés de télécommunications, vous trouverez qu'ils ont 500 employés, mais il n'y a que 10 ou 20 qui ont signé directement avec la société. Une des sociétés que nous connaissons, que je ne peux pas citer le nom, mais la plupart des agents, ils sont dans des sociétés de sous-traitance. Et ces sociétés de sous-traitance, ils sont payés par la société mère avec qui il a signé un contrat.
Mm-hmm.
On prend un exemple concret. On paye quelqu'un $500. La société de sous-traitance donne à l'agent $300. Il garde $200. Et vous voulez que cette situation vienne dans le secteur des mines. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mm-hmm. Nous allons encore appauvrir davantage le Congolais. Au lieu que le Congolais travaille directement avec la société concernée, il signe le contrat directement avec la société et où, s'ils n'ont pas assez de départements, ils créent des départements de transport, des départements de construction. Comme ça, les Congolais signent directement avec les sociétés concernées au lieu de passer par une société de sous-traitance où, à la fin, lorsqu'il faut toucher les indemnités de sortie ou quoi que ce soit, la société de sous-traitance là fait marcher les employés congolais.
Voilà, même merci beaucoup.
Nous faire ici chez les Indiens, c'est la même chose.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Kalonji. Voilà. Merci beaucoup, Kalonji. Vous pensez, vous, le problème, c'est le rapport, n'est-ce pas, les conditions de travail au niveau des sous-traitants. Ils risquent de toucher, comme vous le dites, beaucoup d'argent auprès de la société mère et que les Congolais qui vont travailler dans la sous-traitance puissent se retrouver vraiment sans assez de moyens. Séraphin, vous êtes à ouvrir et garder la ligne le temps que notre invité puisse réagir. On va revenir à vous. C'est ça votre inquiétude. Comment la loi prévoit aussi de surveiller, n'est-ce pas, les sous-traitants pour que les conditions de travail des Congolais puissent être des conditions acceptables. On va vous accorder la parole, Séraphin, après quelques minutes d'intervention de notre invité.
Parole aux auditeurs.
Professeur Dona Kabango, on revient directement Kampata, on revient excusez-moi, on revient directement à vous, vous avez suivi notre ami de Mbujimaï qui a dit, c'est pas une nouvelle loi, l'inquiétude de tous c'est de savoir si effectivement ces sociétés de sous-traitance vont permettre aux Congolais vraiment de pouvoir toucher l'argent qu'il faut, d'avoir accès aux services sociaux de base, c'est un peu ça l'inquiétude des auditeurs. Mais il y a aussi ceux qui ont évoqué l'interférence politique, mais il y a des questions qui vous ont été posées par rapport au cours du diamant. Pourquoi la station Mbujimaï ne s'améliore pas? Notre ami Dekananga aussi, avec la sous-évaluation dans les concessions et les problèmes de traçabilité, avant qu'on puisse écouter les deux derniers auditeurs de cette émission.
Voilà, j'aimerais quand même commencer par notre ami Henri Grégoire qui m'a posé la question sur la situation précaire en Mbujimaï. Bon, mais il faut quand même reconnaître que les diamants, les prix du diamant n'ont pas changé. Les cours de diamant restent les mêmes. C'est la société Miba qui frôle vraiment la faillite. Pourquoi? Parce que les ressources minérales sont dans les sous-sols. J'ai toujours dit à plusieurs personnes, tu ne peux jamais dire que je suis riche lorsque les minéraux ou bien les minérales se trouvent dans les sous-sols. c'est lorsque tu discutes avec ces produits sur la table qu'on peut parler d'une richesse. Mm-hmm. L'amiba a des problèmes, n'a pas de matériel pour excaver, pour exploiter les diamants. Et vous savez, vous avez suivi dernièrement, le gouvernement a avancé une somme d'argent. Jusqu'à présent, l'amiba est en train de certifier ses kimberlites de manière à tirer l'argent dans une banque sud-africaine. Mm-hmm. Voilà, là, c'est le problème est tout autre à la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Bon, dire que l'arrêté, c'est une aggravation donc de la situation, c'est-à-dire aggraver, mettre encore davantage les Congolais dans les malheurs, je crois que ce n'est pas la réalité. Ici, je crois qu'il y a un des auditeurs qui a mal compris. Ce ne sont pas des sociétés étrangères qui viennent faire la sous-traitance. C'est celle-là que nous refusons. Mm-hmm. C'est le contraire. Donc, ce sont des sociétés des droits congolais, dirigées par des Congolais, et la vérification est simple. Lorsque vous créez une entreprise congolaise, mais on sait quand même vérifier tous les papiers de l'entreprise. Et cette entreprise devra engager des Congolais, pas des étrangers, pour faire la sous-traitance. Mm-hmm. Parce qu'à ce moment-là, il y aura quand même une augmentation de l'emploi. Donc, le contrôle se fera au niveau de la province, même au niveau de Kinshasa, on pourra toujours contrôler. Parce qu'il ne s'est pas encore rendu compte, j'ai donné tout à l'heure là le nombre de sous-traitances qui peuvent exister dans une société en exploitation. Ils peuvent arriver jusqu'à 20. Maintenant, prenez toutes les sociétés qui sont en exploitation, au Katanga, et au nord, dans les provinces orientales, dans les Maniema, mais vous allez constater qu'ils sont très, très, très nombreux, très nombreux. À l'époque, une société comme la Gécamine, mais ne faisait pas parfois la sous-traitance, la Gécamine faisait les tout elle-même. Mm-hmm. Tu vois? Donc, c'était une vache à lait à l'époque. Actuellement, la Gécamine ne fait rien. Mais maintenant, nous avons, il y a une compétition maintenant avec toutes les sociétés étrangères qui sont nombreuses. Mais cette société engage en sous-traitance des sociétés aussi étrangères. Parfois, c'est, la société elle-même, elle se découpe en sous-traitant. C'est ça que nous voulons combattre.
Okay.
À ce moment-là, ils vont payer des impôts et surtout nous donnons la chance aux Congolais qui ont la capacité technique, je l'ai bien souligné, parce que si tu n'as pas la qualité, ben, on vous demande pour une découverture d'une mine, mais si tu n'as pas d'excavatrice, tu n'as pas de benne, mais comment tu vas le faire? Donc, il y a des Congolais qui ont cette capacité technique, qui vont le faire, parce que ça existe.
Mm-hmm. Voilà, il y a Mathieu qui a parlé de la sous-évaluation, mais il a évoqué aussi l'arrêté, je crois bien, du 4, hein, du 5 avril, je crois bien, un peu plus rapidement. Comment on peut lier aussi cela à cette lutte-là pour la réduction de la pauvreté, un peu plus rapidement, pour coupler les deux avant d'écouter les derniers auditeurs?
Non, mais il faut dire qu'au même moment, le 4 avril, comme je disais, le 5 avril, le ministre des Mines et le ministre des Finances ont pris un arrêté portant la nomenclature des produits miniers. Vous savez pourquoi? Les produits miniers, à l'époque, étaient spécifiques à la Gécamine, à la MIBA, à des grandes sociétés, à des sociétés de l'État. Mais avec l'ouverture, maintenant, à tout le monde, il y a des produits, avec la technologie qui évolue, il y a des produits intermédiaires. Mais ces produits-là, il y a des sociétés qui cachaient, parce que la taxation s'est faite par rapport à l'élaboration du produit. Mais et ils prenaient un produit bien élaboré, ils les classent dans les produits mal élaborés. À ce moment-là, lorsque nous devons payer, nous calculer la redevance minière, la société paye moins. C'est pourquoi il y avait des produits qui ne sont pas dans la loi tarifaire. Comme aujourd'hui, on parle des concentrés, des produits concentrés. Mais des concentrés, concentrés mixtes ou bien concentrés simples. Ce sont des produits qui n'existaient pas. Qui n'étaient pas, parce que la Gécamine n'exportait que la cathode du cuivre à l'époque. Alors, mais maintenant, il a fallu que les ministres organisent les secteurs. Encore plus, il y a des sociétés au Katanga qui exportent les minerais. Avec 70% d'humidité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez une tonne de minerais, une tonne de produits, il y a au moins 700 kilos d'eau. Alors, mais qu'est-ce qu'il exporte? C'est pourquoi le ministre a essayé de réglementer dans tout ça.
Okay.
Et en gros, c'est ça.
Voilà, on va écouter rapidement Séraphin. Vous êtes à Ouvira. Bonjour, Séraphin.
Bonjour à tout le bureau ainsi qu'à l'invité.
En une minute et demie, comme on tend vers la fin de l'émission, votre point de vue, Séraphin?
En fait, merci pour me donner une minute, je serai à peu près là. je ne peux pas aborder dans le sens des entreprises à tout présentes, mais je voulais aborder dans le secteur minier. Moi, je crois que j'ai suivi l'invité à long et à large, mais néanmoins, on doit éviter à considérer le peuple congolais comme un peuple bête. Pourquoi je dis ça? Parce que personnellement, j'ai lu les rapports d'Afrique Progress Panel, publié le 27 mai 2013. Mais c'est dans le secteur minier congolais qu'il y a trop d'anarchie. Quels différents rapports? Si vous regardez dans le secteur minier, les actifs de la GECAMINE ont été vendus à des sociétés pendant 2 ans, à des sociétés offshore à des prix inférieurs à ceux du marché, estimés à 1,63 milliard de dollars. Donc 1,63 milliard de dollars qu'on a perdu en 2010 et 2012. C'est ça les rapports d'Afrique Progress Panel. Et aussi, dans ces rapports, on a cité normalement M. Kabir là-dedans qui est en train de brader la richesse nationale en complicité avec l'entreprise du groupe Fleurette et détenue par Dan Gurta. Donc, il y a un sérieux problème dans le secteur minier que les autorités congolaises profitent pour brader les richesses nationales. Et voilà même la raison qu'on a bloqué la motion de l'honorable François Germain Kambinga.
Oui, Séraphin, s'il vous plaît. Séraphin, s'il vous plaît. Séraphin, est-ce que vous me suivez? Oui, c'est ce que nous disons souvent. Vous savez que quand nous abordons les questions dans l'émission, nous allons avec une question précise pour ne pas se perdre dans le débat. C'est pourquoi nous avons parlé aujourd'hui de la sous-traitance. Demain, on parlera du code minier. Mais si nous abordons toutes les choses comme vous abordez, tout de suite, on aura abîmé l'émission parce qu'on n'a pas resté, on n'est pas resté plutôt dans l'angle qu'on voulait. On voulait parler de la sous-traitance. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Mais là, vous avez évoqué tellement beaucoup de choses à la fois qu'on risque de ne pas retenir une conclusion dans ce qui est dans votre intervention par rapport au problème des la sous-traitance qui fait, n'est-ce pas, le sujet du débat aujourd'hui, Séraphin.
Effectivement, moi, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui l'ont déjà abordé, mais néanmoins, nul n'ignore qu'aujourd'hui, avec la problématique de sous-traitance dans les entreprises, et non seulement dans les entreprises minières, mais dans d'autres entreprises commerciales, sous-traitant d'autres entreprises, comment est-ce que cette sous-traitance traite les employés? C'est très grave, parce qu'il y a même des entreprises à sous-traitance qui privent leurs travailleurs, leurs employés, les soins médicaux, qui privent certains avantages sociaux. Donc, il y a une certaine légèreté au niveau des autorités nationales.
Voilà, oui, parce qu'on va, on a déjà épuisé la minute qu'on vous avait donnée, Séraphin. Et d'ailleurs, vous avez bien fait de revenir sur la sous-traitance et poser les problèmes, que ce soit les soins médicaux. C'est pourquoi nous avons parlé. Est-ce qu'avec cette loi, on va permettre aujourd'hui à ceux qui vont travailler dans cette sous-traitance d'avoir accès aux besoins sociaux des bases, comme les soins médicaux, comme la scolarisation de leurs enfants? Voilà un peu, malheureusement, hein, Séraphin, vous nous avez pris plus de 2 minutes, ce qui ne nous permet pas d'accorder la parole à Félix. On s'excuse vraiment, Félix, vous étiez déjà sur les antennes. Malheureusement, on pourra voir comment vous accorder cette parole prochainement. On revient à vous, professeur Donat Kambata, parce qu'on va conclure cette émission en rappelant, bien sûr, nos auditeurs que chaque fois que nous traitons une question, un sujet avec une question, c'est pour que nous ne puissions pas nous perdre dans beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, à aborder. Mais l'émission, chaque jour qui passe, traite d'une matière à l'autre, mais on peut, pour la même matière, revenir avec autant d'émissions, mais pourvu que nous puissions ne pas nous perdre dans les déclarations et surtout perdre notre fil d'idées. Voilà, c'est un peu pour les auditeurs. On revient à vous rapidement, professeur, parce qu'on a écouté les uns des autres. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes, il y a des questions que les gens se posent. On voit, bien sûr, avec les sous-traitants qui existent dans d'autres domaines, dans quelle manière la population vit, ceux qui travaillent vivent, et dans le secteur minier, comment cela peut-il résoudre le problème de la pauvreté? Voilà tout le problème. Mais aussi, on peut dire aussi, en 1 minute 30, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir pour qu'ils soient apaisés?
Mais il faut dire que la pauvreté du peuple congolais ne sera pas totalement consommée par la sous-traitance. Là, ne nous leurrons pas, parce que là, toute cette sous-traitance, ici, c'est en quelque sorte donner du travail à quelqu'un. Hein? Mais vous savez que nous avons beaucoup de jeunes gens qui n'ont pas d'emploi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas beaucoup de sociétés productrices. Quand même, quand vous regardez dans les secteurs miniers ou bien dans d'autres secteurs, mais les Congolais, nous ne produisons pas beaucoup. C'est lorsqu'on produit qu'on peut espérer gagner encore beaucoup plus dans beaucoup de secteurs. Mais le secteur minier, sa maladie est toujours liée au secteur d'énergie. Là, vous connaissez. Mais le secteur minier reste toujours le poumon d'acier pour ce pays. Donc, c'est pourquoi moi je voulais dire, revenir encore à cette spécificité, c'est-à-dire que dans ces domaines miniers, lorsqu'on demande à des sociétés congolaises, à toute personne physique ou morale, de travailler en sous-traitance avec une société minière qui, en général, avec des capitaux étrangers, c'est pour que le peu d'argent qu'on va payer à cette société puisse être utilisé. Il y a toujours des effets, vous connaissez des effets d'entraînement lorsque l'argent est donné. C'est ça, c'est ça que le ministre poursuit et c'est ça que nous poursuivons. Et je crois qu'on ne peut pas se leurrer et ça va marcher.
Merci beaucoup, professeur Dona Kapata, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux. On pourra encore se retrouver prochainement parce que les questions dans les secteurs miniers ne peuvent pas être tous élaguées le même jour. On peut avoir beaucoup de temps pour en parler. On prend rendez-vous avec parole aux auditeurs le lundi 24 juin prochain. De plus en plus, des cas d'absentéisme sont signalés à l'Assemblée nationale. D'aucuns craignent que ces absences n'impactent négativement sur le travail des députés ainsi que les attentes de la population. Comment réagissez-vous à cette situation? C'est la question au centre d'autres échanges le lundi prochain. Merci à J.R. Lungembo, Titim Poutou, Guimazangou pour la production de cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Vous allez la retrouver à 20h03 de Kinshasa, mais aussi sur radiocapi.net. Au revoir et surtout, bon week-end en compagnie de Radio Capi.